Vous écoutez
RMC. RMC, midi 14h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
On est de retour dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story. On est ensemble jusqu'à 14h avec Rémi Barré, avec le journaliste Perico Légas, avec le désormais propriétaire de Gîtes, les grands connaisseurs de la vie politique française, Jérôme Lavrieux, et avec Juliette Briens, qui est journaliste à L'Incorrect. Dans un instant, on va revenir bien sûr sur le premier tour des législatives et ce raz-de-marée du RN. Ce raz-de-marée est-il une revanche de la France d'en bas? Dites-nous si justement vous vous sentez oublié par les élites et que vous avez voté RN pour vous sentir enfin considéré. On vous attend au 32-16 et sur l'appli RMC. À 13h30, on parlera du meilleur du jour sur RMC, le zapping avec le dégagisme. Plusieurs personnalités qui ont été dégagées dès le premier tour. Jérôme Cahuzac, Damien Abad ou encore Clément Beaune. Et on parlera également de Jean-Luc Mélenchon qui est apparu à côté de Rima Hassan qui était vêtue d'un keffier hier soir et ça a beaucoup fait parler. Et puis on vous offre des places de foot, Rémi, sur RMC.
Oui, cette semaine sur RMC, nous vous envoyons en Allemagne pour assister au quart de finale de l'Euro 2024. Nous vous proposons de vivre l'expérience RMC, le voyage à Hambourg, le vol et l'hôtel, la rencontre avec les équipes RMC avant le match et bien sûr vos deux places pour le quart de finale qui se disputera le 5 juillet prochain à 21h. Ce sera un quart de finale soit France ou Belgique contre Portugal ou Slovénie. Dès que vous entendez cette alerte, vous aurez alors 5 minutes pour envoyer euro par SMS au 732-16. Euro par SMS au 732-16. Cette alerte, elle peut tomber à tout moment. Vos places pour le quart de finale de l'Euro 2024. On espère bien qu'il y aura la France dans le lot. Se gagne uniquement sur RMC.
RMC, Estelle Midi.
13h05 sur RMC, on va poursuivre Estelle Midi avec le mécontentement du jour et c'est celui des Français qui ont voté massivement contre le parti présidentiel hier aux législatives. Des Français qui ont voté massivement pour le RN, notamment chez les classes populaires, Rémi, et chez les ruraux.
Oui, et on le sait assez précisément à quoi ressemble ce profil de l'électeur RN grâce à une enquête Ipsos. Ceux qui ont glissé un bulletin de vote pour un candidat RN hier sont majoritairement des hommes, ouvriers ou employés âgés de 50 à 59 ans. Ça, c'est le portrait type. Dans le détail, les 50-59 ans ont voté à 40% pour le Rassemblement National hier, les 18-24 ans à 33%. Mm-hmm. Quand on s'intéresse aux professions, les ouvriers ont voté à 57% pour le parti de Jordan Bardella. Les employés sont 44% à l'avoir fait. Les cadres et les professions intermédiaires, à 34%. Le vote RN est inversement proportionnel avec le niveau d'études, c'est ce que nous dit aussi cette étude. 49% des personnes qui ont un niveau de formation inférieur au bac ont voté RN. 38% des seuls détenteurs du baccalauréat l'ont fait. Un vote de colère ou de ras-le-bol ou en tout cas d'insatisfaction. Un électeur du RN sur deux se dit pas satisfait de sa vie et c'est un record par rapport aux autres votes. Et la carte de France de ce vote, elle est très parlante, il suffit de regarder. Hormis, j'allais dire, les grandes villes et en particulier Paris et dans une moindre mesure la Bretagne, tout le reste de la France a majoritairement voté RN.
Alors ce succès du RN hier au premier tour des législatives, est-ce la revanche de la France d'en bas, Perico Légas?
Ce n'est pas la revanche de la France d'en bas, c'est le cri de souffrance de la France d'en bas. Qui n'en peut plus de ne pas être écouté. On peut donner le chiffre de 40 ans. Depuis les promesses, depuis 81, cette classe populaire, mais maintenant il y a des classes moyennes qui y sont, qui se sentent défavorisées par une mondialisation. On leur dit, grâce à votre sacrifice, les gens pauvres du bout du monde vivent mieux. Mais c'est vous qui allez payer, c'est pas les très riches. Il y a ce sentiment. Et puis ensuite, ce sentiment très fort que la continuité de la société française telle qu'ils l'ont vécue, avec des apports de populations étrangères régulières, sans ça la France n'aurait pas la France, cette continuité peut à un moment donné ressembler à ce que certains appellent une forme de remplacement. C'est ça qui a fait peur. Il y a dans le vote d'hier quelque chose de très clair. Il y a hier des Françaises et des Français qui avaient voté Emmanuel Macron en 2017 au deuxième tour pour faire barrage à Marine Le Pen, qui ont renouvelé l'expérience en 2022. Ils ont voté Macron alors qu'ils n'étaient pas macroniens ni d'accord avec ses opinions politiques, contre Marine Le Pen pour faire barrage. Donc c'est des gens qui venaient du camp d'en face. À 11 millions, ça veut dire que ces gens-là, lassés d'avoir été trompés, menés en bateau, de voir des promesses non tenues, de voir des alliances contre nature sous prétexte que l'on protège de ne sait quoi, eh ben, ils ont passé le cap, ils ont franchi le Rubicon, allé à Jacta Est, et ils ont donné leur voix pour expérimenter cette solution. Voilà. Donc, c'est effectivement une insurrection, c'est un gilet jaune puissance nationale, par le suffrage universel avec une participation qui légitimise totalement ce vote. Si la classe politique, et le drame d'hier soir, c'est qu'on a eu des combats d'état-major, de désistement, tant qu'on ne dira pas aux Français, voilà l'origine de vos souffrances, voilà l'origine du vote du Front National. C'est ce qu'avait dit Macron, je vais venir pour détruire les causes qui font que les Français votent Front National.
Son
échec
n'est pas
patent, c'est un cataclysme, c'est une hécatombe ce qu'il a fait. Il faut aujourd'hui résoudre les problèmes qui font que 11 millions de Français sont allés voter hier pour l'Assemblée nationale. Il y a des solutions, il faut juste écouter ceux qui les dénoncent.
Jérôme Lavrieux, est-ce que finalement ce sont les gilets jaunes qui ont infusé sur l'ensemble de la société ?
Moi, je pense que les deux phénomènes majeurs qu'il faut regarder pour expliquer pourquoi ce qu'on dénomme, c'est l'INSEE quasiment qui nous le dit en séparant les gens en catégories socio-professionnelles, la France d'en bas qui a le plus voté. Cette France d'en bas dont on parle, pendant très longtemps, c'est la gauche qui lui parlait.
Ouais.
C'est elle qui a fait élire François Mitterrand. Et puis, dans la fin des années 90, début des années 2000, la gauche, le Parti Socialiste, qui n'est quand même que l'ombre de lui-même, même aujourd'hui,
le PS,
a abandonné les classes dites populaires, qui sont plus les oubliés que la France d'en bas, au profit d'un vote plus communautariste. On le voit, par exemple, quand on voit Rima Hassan avec son keffiyeh à côté de Jean-Luc Mélenchon, il y a 25 ou 30 ans, on aurait mis quelqu'un avec un bleu de travail à côté. Là, on a mis quelqu'un avec un keffiyeh à côté. Tout est important en termes de communication. Donc, cette gauche-là ne parle plus. Mais il faut bien que les gens aient un débouché. Le coup de génie de Marine Le Pen, contrairement à son père, qui était plutôt riganien en point de vue économie, c'était de parler à cette France oubliée. Oubliée des autoroutes, oubliée du haut débit, oubliée des cinémas.
C'est un compliment aujourd'hui.
Oubliée des cinémas, oubliée de tout un tas de choses. Elle a décidé de leur parler parce que plus personne ne leur parlait. Sauf que ces gens vont voter. Et la gauche se retrouve à la remorque, enfin la gauche modérée se retrouve à la remorque et dissoute, diluée dans une gauche menée par LFI qui ne parle plus. Moi, je l'ai vécu à Saint-Quentin dans ma ville.
D'accord.
Pendant très longtemps, les quartiers qui votaient communistes dans l'Aisne, qui votaient communistes, ils sont passés au Front National à l'époque.
Il y a quatre candidats qui ont été élus directement.
Ils sont passés direct des cocos au Rassemblement National, quartier pour quartier. Parce que la gauche ne leur parlait plus. Et ça, c'est important d'avoir ça en tête. Et si la gauche ne revient pas pour leur parler, voilà, on a un vide qui est comblé par le Front National.
Juliette Briens, est-ce que le vote d'hier, pour vous, c'est un vote pour une croyance en un monde meilleur, finalement, ou c'est vraiment un vote de protestation ?
De protestation dans un sens, oui, mais pour des sujets bien précis. Déjà, j'aime beaucoup, en tout cas, le fait de remplacer le terme de France du bas par France des oubliés. Déjà aussi parce que c'est vrai que ce sont les ouvriers, les gens qui travaillent de leurs mains, qui effectivement votent pour le Rassemblement National aussi. Mais il y a une énorme percée chez les CSP+, et c'est ça qui a permis à Marine Le Pen d'accéder à une nouvelle tranche dans les sondages. Mais il est vrai que d'après, par exemple, un dernier sondage Ipsos, il me semble, sur les revendications, en tout cas du vote RN, c'est très clair. C'est 1, immigration, 2, pouvoir d'achat, 3, sécurité. Et pendant des années, depuis 30 ans, on explique à ces gens que ces préoccupations-là, elles sont d'extrême droite. Il n'y a qu'à voir hier l'ambiance sur Twitter. On a un journaliste quand même de Bein Sport qui a tweeté, je cite, « Il y a 12 millions de fils de pute dans ce pays ». Bon, il a supprimé depuis, mais vous imaginez la violence. Mais c'est ça qu'ils ressentent au quotidien, ces gens. C'est ce mépris-là qui vient d'une espèce d'oligarchie bobo de la capitale dont ils se sentent parfaitement déconnectés. Ajoutez à ça les artistes, etc., ceux dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui n'ont de cesse de leur donner des leçons de morale du haut de leur immeuble dans le 16e, ou dans le 15e, ou dans le 11e. Et donc, ces gens, évidemment, sont dans le rejet du système, de ces donneurs de leçons. Et cette colère, il faut l'entendre. Et au lieu de l'entendre, On continue, on s'obstine, on ne répond pas aux questions, on s'obstine à dire barrage à l'extrême droite, barrage aux fascistes. Mais eux ne se sont jamais sentis d'extrême droite ni fascistes. Donc quand est-ce qu'on arrête, en fait ?
Estelle, je me souviens, le 21 avril 2002, au soir du premier tour, lorsqu'il est annoncé que Jospin est troisième et que Jean-Marie Le Pen sera deuxième face à Chirac au deuxième tour. Je me souviens du discours de Le Pen. J'ai à côté de moi deux grandes personnalités de la gauche, je ne vais pas dire qui c'est. Ils écoutent Le Pen dire... Ce soir, les exclus, les petits, les sans grade, les oubliés. Et je les entends se dire, merde, c'est à nous à dire ça. C'est lui qui sait. Heureusement qu'ensuite, il y a eu un sursaut, comme en 2002, qui n'a pas eu lieu là. Mais le discours de la France d'en bas, c'était Jean-Marie Le Pen qui l'avait symbolisé par ses formules. Voilà. Et aujourd'hui, ce discours du 21 avril 2002, dans la bouche de sa fille, il a porté les représentants de la France qui souffre, de la France d'en bas des oubliés, du prolétariat de la classe ouvrière, qui n'est plus ce qu'elle était, c'est aujourd'hui le RN qui la porte, et c'est là où il y a un avertissement très sérieux aux autres partis. Voilà.
Et après, le RN fait très très attention à toujours avoir un discours qui est extrêmement compréhensible par tous. C'est-à-dire jamais de mots hyper compliqués. Jamais.
Sauf que là, ils se sont rapprochés.
Ils font hyper attention
à ça. Très révélateur.
Hier soir, Jordan Bardella prend la parole. Il appelle à l'unité nationale.
Oui.
Ah oui, bien sûr. Mais en fait, pour.
D'ailleurs, la coalition.
Il détaille tout de suite. Il est déjà dans le deuxième tour. Il détaille tout de suite pourquoi les gens devraient voter pour le RN. Et il parle de pouvoir d'achat et ça.
La stratégie du RN, c'est évidemment d'annihiler cette opposition entre gauche-droite. Pour eux, l'opposition gauche-droite n'existe plus. C'est les élites contre le peuple.
Avec quelques messages au marché financier en disant, vous voyez, on n'est pas si méchants.
Oui, la bourse montait de 2,5 ce matin.
C'est stupéfiant, vous avez vu ça.
Mais parce qu'en fait, il n'y a pas eu de surprise. C'était des résultats attendus. Rémi,
ce message de David, qui est très révélateur. David, il nous écrit sur Direct Studio. Bonjour. Oui, nous, en zone rurale, nous sommes les oubliés. Je précise que j'ai Bac plus 2. Que je vois ce qui se passe. À la campagne, on n'a pas de bus, pas d'aide, pas de tramway. On doit prendre notre voiture. On travaille dur. À la ville, c'est sa manière de voir les choses. Hein. Les gens et la jeunesse à tout, magasin, cinéma, bus, métro, tramway, bénéficient de toutes les aides possibles. Et il faut que ça cesse. Merde, merde et merde. Il faut que ça s'arrête.
Et voilà pourquoi après on leur fait porter aussi la responsabilité, par exemple, de la crise climatique. On l'a vu, c'est ce qui a commencé les gilets jaunes, en leur disant les consommateurs de diesel, on vous pointe du doigt, alors qu'ils n'ont rien d'autre.
Oui, alors il y a beaucoup de villes qui sont revenues quand même sur les ZFE. Entre-temps, on va prendre tout de suite Sébastien en ligne, qui nous appelle de Culin dans l'Isère et qui est technicien. Bonjour Sébastien.
Oui, bonjour. Bonjour à tous.
Et Sébastien, alors vous êtes un électeur RN, je crois. Pourquoi est-ce que vous avez voté RN, finalement ? Est-ce que c'est dans un esprit, effectivement, de revanche ou c'est vraiment un vote de conviction et d'adhésion ?
Alors, pour moi, c'est un vote de conviction. Après, est-ce qu'on est les oubliés de la France d'en bas ? Non, je ne pense pas. Je pense qu'aujourd'hui, on est surtout les électeurs de la France qui en a marre, qui subissent. Qui a subi la Macronie, qui a subi tout ce qui va avec. Aujourd'hui, on a clairement un sentiment d'insécurité en France. C'est une vérité, on ne va pas se le cacher. Moi, je travaille sur le bord des routes, je fais de l'éclairage public régulièrement. On est agressé régulièrement, on se fait insulter régulièrement. On est traité comme des moins que rien parce qu'on a en bleu de travail. À un moment donné, je pense qu'il faut inverser la tendance et je pense clairement, oui, que ça passe par le Rassemblement National.
Vous pensez clairement que ça va changer votre quotidien ?
Ça va changer mon quotidien et le quotidien de beaucoup de Français. Vous voyez, par exemple, je vote Rassemblement National, mais je tiens à préciser, je suis absolument pas raciste. C'est pas pour les causes migratoires, c'est pas pour tout ça, c'est vraiment pour retrouver une France.
C'est la sécurité.
Et pas celle de M. Mélenchon. Quand hier, je regarde la télé, que je regarde BFM TV, que j'allume la télé après les résultats et que je vois un rassemblement Place de la République avec des drapeaux algériens, palestiniens, tout sort de drapeau, sauf celui de France.
Et tout le monde déteste la police, scandé.
Exactement, oui, je m'indigne. Et aujourd'hui, moi, les forces de police qui ont tout mon respect ne sont plus respectées. Et c'est impossible en France.
Bah merci beaucoup, c'est en impossible. Tout cas, voilà, Sébastien, d'avoir été avec nous.
Vous êtes pour ce que Finkielkraut appelle la continuité de cette société que vous ne voulez pas voir disparaître. Telle qu'elle a toujours été.
En tout cas, il est pour plus de sécurité. Mais merci beaucoup, Sébastien. Leïla également est avec nous. Leïla, qui est de Lyon et qui est infirmière. Bonjour, Leïla.
Bonjour.
Leïla, est-ce que pour vous, ce vote RN, c'est un vote de protestation de la France d'en bas ? C'est la revanche de la France d'en bas pour vous ?
Non. Moi, je pense que surtout, c'est pas la revanche de la France d'en bas. J'aime pas aussi ce terme de France d'en bas, mais c'est surtout qu'on arrive au bout d'un système et que les gens voient très bien que les conditions et de travail et de vie, etc., se dégradent. Et après avoir essayé la droite, après avoir essayé la gauche, ils se disent pourquoi pas le RN. Mais bon, moi, sincèrement, je pense que ça changera pas grand-chose. Regardez l'état de nos campagnes, plus de services publics, ouais. Plus rien du tout, plus d'hôpitaux, parce que ça coûte très cher. Enfin, je crois qu'à un moment, faut poser les mots. Moi, je suis indépendante. Quand on enlève des maternités dans des petites villes, enfin des ce qu'ils appellent des campagnes, mais où va ma thune? Enfin, clairement, je paye de l'URSSAF, je paye de l'impôt, je n'arrête pas de payer. Clairement, je n'arrête pas de payer. Où va ma thune? Voilà. Et je pense que c'est surtout un vote pour faire comprendre aux politiques que on est effectivement à bout d'un système et qu'il faut nous proposer quelque chose de nouveau, complètement nouveau. Après, j'ai envie de dire, la préférence nationale, ça ne me choque pas, ça se fait partout dans d'autres pays, ça faut le savoir, je voyage assez pour le savoir. Après, les flux migratoires, on ne pourra pas les arrêter tel que le dit le RN, parce que faut bien payer
nos retraites. Bah non, regardez ce qui se passe en Italie.
Voilà, faut bien payer nos retraites, faut bien repeupler nos campagnes, comment on va faire? Ben voilà, donc à un moment, l'insécurité, je pense qu'effectivement, il faudrait que la justice soit plus ferme, avec une police qui soit plus présente.
Oui, mais regardez, Gérald Darmanin a essayé, il a échoué. Donc à un moment, vous l'avez dit vous-même, on n'a plus d'argent. Si on n'a plus d'argent pour recruter des policiers, des profs, des infirmières, etc., de toute façon, la situation elle sera la même.
Alors Estelle, je crois qu'à un moment, il faut revoir toutes nos institutions
il y a assez d'impôts, je pense qu'il y a de l'argent.
Et arrêter les usines à gaz. D'accord. Parce que moi, j'aimerais bien savoir tous les visées, etc., sans être démago, mais combien ça coûte. Moi, je veux qu'on fasse une politique comme dans les pays nordiques.
C'est pas ça, oui. Totale. Mais combien même Emmanuel Macron, il paierait l'essence dans sa voiture, ça rendrait pas de pouvoir d'achat aux Français. En fait, bien le symbole, il est gênant. Ça, je le comprends. Il est très gênant. Mais en vrai, en matière d'argent, ça changerait pas grand-chose.
Les pays nordiques, il y a des monarchies qui roulent dans des carrosses, et puis c'est pas ça qui fait le bonheur du peuple.
Il faut revoir nos institutions, il faut faire des économies et pas faire des usines à gaz, des audits sur audits et des choses.
Vous
comme
voulez tout
ça,
changer en fait.
Il faut revoir nos dépenses.
D'accord. Merci.
Il faut revoir nos dépenses. Voilà, exactement. Il faut revoir nos dépenses.
Eh ben merci beaucoup Leïla, en tout cas pour ce coup de gueule. Oui Rémi.
Non, je voulais intervenir sur Leïla. Je ne sais pas si elle est encore avec nous très rapidement. Leïla, elle est encore là?
Allez-y, oui. Leïla.
C'est bien Leïla, on se connaît, Leïla?
Bien sûr qu'on se connaît.
Ouais, parce qu'on avait fait une émission RMC chez Leïla.
Ah, à
l'époque. Oui, absolument. Leïla, je me trompe pas, à l'époque, vous étiez. Ouais. Vous croyiez à l'époque à Emmanuel Macron, vous étiez engagé pour le macronisme,
non, moi j'étais plus de droite. Alors moi, j'ai la chance quand même, dans ma circonscription, il reste encore des centristes plutôt droite, ce que je suis, clairement.
La situation dans laquelle, juste très rapidement Leïla, situation dans laquelle on est aujourd'hui, qu'on la déplore ou pas, elle est consécutive de l'échec quand même des autres, non?
Ah ben oui, mais c'est pas que de Macron, je veux dire, c'est une continuité, des choses. Mm-hmm. Donc voilà, mais c'est vrai que moi je suis encore de centre droite et moi je fais partie de cette France qui va être, et passez-moi le terme, je parle familièrement, mais on est entre nous, bananée. Clairement, je vais être bananée, que ce soit d'un côté ou de l'autre.
Et oui, voilà. C'est la France dont on parlait tout à l'heure, et le nini, effectivement, et on sait plus trop, la France modérée qui sait pas trop, effectivement, pour qui voter, etc. Merci beaucoup, en tout cas, Leïla, d'avoir été avec nous et notre invitée sur ce débat. On est ravis de l'accueillir. C'est Philippe Moreau-Chauvrelet, professeur de communication à Sciences Po. Bonjour, Philippe.
Bonjour, Estelle.
Alors, Philippe, vous êtes l'un des premiers à avoir dit que finalement le RN pourrait avoir une majorité absolue à l'Assemblée. Vous nous avez dit il y a quelques jours dans Estelle Midi. Finalement, donc vous aviez plutôt raison. On se demande aujourd'hui si ce vote RN qui a été massif hier, est-ce que c'est une revanche de la France d'en bas, selon vous?
Il y a plusieurs paramètres. Il y a un paramètre social, évidemment. C'est évident que c'est plutôt les catégories les plus populaires des électeurs qui ont voté pour le Rassemblement National. Mais il y a d'autres clivages. Il y a notamment un clivage ville-campagne, d'ailleurs, qu'on a très bien entendu chez vos auditeurs, et qui est là vraiment différent. C'est-à-dire qu'au fond, on a dans les grandes villes un vote RN qui est assez faible, à part quelques exceptions. Et on a un vote, par contre, dans le monde rural qui est extrêmement fort, et notamment dans les petites communes. Et parfois, ça change complètement la configuration des circonscriptions. Donc, on a beaucoup de clivages à l'œuvre.
Mais ça s'explique comment, justement, ce vote rural en faveur du RN ?
Comme ça a été dit, je pense qu'il y a une perception qui est qu'en fait, on fait tout en fonction des centres urbains et pas du tout de la ruralité. Il y a un désert des services publics qui s'installe progressivement. Mais le problème, c'est que votre auditrice l'a très bien résumé, complètement résumé, c'est que d'un côté, on aimerait bien avoir une présidence scandinave, suédoise. On exit l'Élysée. L'Élysée, on en fait un musée accessible à tous. On met l'Élysée à la Courneuve dans des bâtiments fonctionnels et ça ira très bien. Le problème, c'est que quand vous dites ça, vous avez énormément de Français qui vous disent « Non, mais moi, je veux un président qui soit une autorité respectée au niveau de la représentation de la France. »
Ça n'empêche pas.
Parce que vous allez dire « il faut des services publics. » Très bien, mais dans ce cas, il faut qu'on dépense plus. Et là, vous avez tout un tas de gens qui vous disent « Ah bah oui, mais non, on peut pas dépenser
trop d'impôts,
plus, on est endetté, etc. »
Donc, on dépense bien, mieux.
Le RN est le fruit de nos contradictions. Et il faut, à mon avis, qu'il y ait une clarification, comme le disait le président, politique qui s'opère au moins à gauche, où on retrouve le sens de ce qu'on défend, les services publics, le social, les gens, et arrêter de regarder d'une part son nombril et ses organisations, et ensuite n'avoir que comme considération que des profits financiers. Je veux dire, c'est pas possible.
Mais est-ce que le vote d'hier, c'est un vote, selon vous, de gens qui croient vraiment que le RN va changer leur vie, ou est-ce que c'est avant tout un vote de protestation ?
Ah non, je pense que c'est... Non, le vote de protestation, ça n'est plus d'actualité. On a un vote d'adhésion, ça fait déjà très longtemps que le RN travaille, et je pense qu'on n'a jamais eu des Français aussi éduqués qu'aujourd'hui, dans toute l'histoire de France. Donc s'ils font ce choix-là, il faut l'entendre. D'abord, c'est un choix responsable, c'est-à-dire que le choix qu'ils font, il faut qu'ils comprennent, ces électeurs-là, que ça aura des conséquences, et que ces conséquences, ils en porteront la responsabilité. Et c'est hyper important de traiter tous les électeurs en adultes pour cette raison-là. On fait des choix, ils ont des conséquences, il faudra y faire face. Et puis ensuite, non, ils considèrent que c'est la seule alternance qu'ils ont, mais ça fait 10 ans qu'on leur dit qu'il n'y a pas d'alternance. Il est normal d'en chercher une.
Et est-ce qu'aujourd'hui, les partis politiques, les autres partis politiques, devraient prendre exemple sur le RN, en tout cas dans la manière du RN de parler aux Français ?
Alors je pense qu'il y a un exemple à suivre, il y a un travail de fond qui a été fait par Marine Le Pen pour positionner le parti comme étant crédible de gouvernement, pas protestataire, etc. Et ils ont accompagné ça d'une vitrine qui est très séduisante, lisse, marketing, qui est Jordan Bardella. Ça, c'est un exemple à suivre au sens où on peut à la fois avoir un travail politique de construction d'un parti et ne pas changer de parti à chaque élection, comme Ensemble, Renaissance, En Marche l'a fait. Et on peut en même temps, effectivement, avoir un produit d'appel marketing qui est peut-être un peu plus grand public, si on est en termes de communication, un peu plus lisse, qui est Jordan Bardella, qui évite de parler politique trop. Hein.
Oui,
ça, ça fonctionne bien. Parce qu'on construit et en même temps, on essaie d'aller voir les gens. Maintenant, le positionnement de base, c'est quand même un positionnement que tout le monde veut, qui est un positionnement social et sur le pouvoir d'achat. On voit bien que ce qui motive votre auditrice pour voter RN, c'est pas la préférence nationale, hein, c'est le social.
C'est ça, et l'auditeur d'avant aussi d'ailleurs, et c'est vrai que tous les auditeurs qu'on a eus et qui nous ont dit voter RN le faisaient jamais par rapport à l'immigration, c'était par rapport à la sécurité, par rapport au pouvoir d'achat.
C'est parce que disent les chiffres, en fait c'est un tout.
C'est un phénomène que Jérôme Fourquet et Jean-Christophe Guilly ont parfaitement démontré depuis des années sur cette fracture sociale et territoriale qui coupe la France en deux.
Merci Philippe Moreau-Chevrolet en tout cas d'avoir été notre invité, vous aussi je pense qu'on vous retrouvera très vite dans Estelle Midi. On va terminer avec Arnaud qui nous appelle de Saint-Rémy-la-Varenne, c'est dans le Maine-et-Loire. Arnaud, il votait LR avant, il vote RN maintenant. Bonjour Arnaud.
Oui, bonjour. Merci de m'accueillir.
Mais il a été facile à faire ce cheminement, Arnaud ?
Bah, il a été facile à faire. Non, il n'a pas été facile à faire. RN, il y a une connotation derrière Marine Le Pen. Moi, le discours de Marine Le Pen, honnêtement, ça me plaît pas. Par contre, là, aujourd'hui, il y a un nouveau visage qui se présente à nous. Quelqu'un de jeune, quelqu'un qui tient debout avec Jordan Bardella. Et voilà, donc aujourd'hui, je pense que non, c'est un cliché, la France d'en bas, non. Là, il faut remettre les choses, on va dire, en place. Quand on voit Hidalgo qui dépense des milliards pour mettre de l'argent dans la Seine, alors que
ça, c'est pas elle, pas, c'est l'État, pour l'essayer.
Enfin, c'est
là en ce moment on a l'impression qu'on se fout de nous à tout bout de champ quoi. On entend qu'Isaac qui revient en politique, faut qu'on passe à autre chose.
Oh oui,
aujourd'hui
fait.
On a besoin.
C'était belle année hier.
Il est revenu assez brièvement.
Oui, hein, ça a été un retour éclair. On va dire. Pas. Non mais ce que vous dites en fait Arnaud, c'est que c'est quelque part l'argent est mal dépensé quoi.
Oui, tout à fait, tout à fait. On balance de l'argent par les fenêtres. Il faut, je pense, un retour à l'ordre et puis voilà, une meilleure que la
et
France.
Et un peu plus de sobriété.
La France, tout simplement. Voilà.
Merci Arnaud, en tout cas, d'avoir été avec nous. Des messages, Rémi, sur l'appli RMC, le résultat de notre sondage.
Allez, ce message de Jean-Pierre. Bonjour, je suis cadre retraité de 62 ans. J'ai voté Mélenchon en 2017, Blanc au second, Roussel au premier tour de 2022, abstenu au second. J'ai voté RN aux européennes de 2024.
Ah oui, enfin.
Et à ce premier tour des législatives, je ne suis pas raciste, mais j'en ai ras-le-bol de l'insécurité, de ce qu'il appelle la cistana, des fraudes de tout niveau, de la mauvaise gestion de notre argent public et du fait que la police n'est soit plus respecté, et j'en passe.
Il a fait du chemin. Hein.
Alors, ouais, le succès... Ben oui, oui, mais il y a beaucoup de Français qui ont effectivement fait du chemin. Le succès du RN aux législatives, est-ce la revanche de la France d'en bas, Rémi ?
Oui, sans aucun doute, pour les trois quarts de ceux qui sont prononcés sur nos réseaux sociaux, ils sont 76% à le penser.
Ah. Allez, dans un instant, on aura les Français en direct. On rejoindra notre reporter Romain Poinzeau, qui est dans les Alpes-Maritimes avec Fabio. Fabio, c'est un fils de berger, il a voté RN. Mais alors, il a voté RN, mais pas pour les raisons que l'on évoque souvent ici, c'est pour une raison assez étonnante. Et puis ensuite, il y aura le zapping, le meilleur d'RMC. À tout de suite.
RMC, midi 14h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
Salut.
On est de retour dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story avec Rémi Barré et Perico Légas, avec Jérôme Lavrieux et Juliette Brien. On continue bien sûr à parler du résultat du premier tour des législatives hier avec un gros succès du RN. Et on est avec tout de suite Romain Poinzeau, notre reporter dans les Alpes-Maritimes, dans la vallée de la Roya. Il est avec Fabio, un électeur RN. Voici tout de suite les Français en direct.
RMC, législative 2024. Les Français en direct.
Avec Fabio, qui est retraité et qui est fils de berger dans la vallée de la Roya.
Tout à fait. Eh bien, écoutez, je me trouve là en pleine montagne. Je suis au-dessus de la vallée de la Roya, les pieds dans l'herbe, tranquillement. Et j'assiste depuis tout à l'heure à un conflit de bergers pour des questions de pâturage. Il n'y a pas que les législatives qui fâchent, décidément. Alors, en tout cas, ici, le Rassemblement National est arrivé largement en tête avec 56% des voix. Et je suis donc avec ce retraité, tout jeune retraité, Fabio, voilà, qui a 60 ans, fils de berger, natif du pays. Fabio, bah, qui a voté Rassemblement National.
Oui, j'ai voté Rassemblement National parce que faut essayer, faut espérer voir peut-être quelque chose changer pour revenir peut-être à quelque chose de plus correct dans le futur.
Mais Fabio, Fabio, vous voulez voir les choses changer, mais quelle chose ?
Eh ben, je trouve aujourd'hui qu'il y a beaucoup moins de civisme, de respect, Je sais pas, il y a une mentalité qui a changé par rapport à pas mal d'années maintenant, là.
En fait, vous avez voté RN, c'est pas tant contre l'immigration, mais c'est plus contre, finalement, cette, vous me disiez tout à l'heure, cette vague de néo-ruraux qui arrive dans vos campagnes, dans votre village, la Brigue, et qui dénature, entre guillemets, c'est ce que vous me disiez, la mentalité, l'état d'esprit, l'authenticité de la ruralité. C'est ça, Fabio ?
C'est un peu ça, tout à fait ça, oui.
Sur quel point, par exemple, concrètement ?
Eh bien, sur les mentalités du travail, ne serait-ce que sur l'agriculture, etc. quoi. Avant, je trouve que c'était beaucoup plus, comment dire, les gens, si on ne savait pas qu'ils étaient agriculteurs, ou en aller au supermarché ou autre, faire les courses ou boire un coup, c'était la personne lambda comme moi et d'autres, quoi. Là, aujourd'hui, parce qu'ils sont agriculteurs, ils sont capables d'arriver avec du fouet dans les cheveux ou de la terre dans les pieds ou... Je trouve qu'il y a c'est plus je trouve ça un peu de ça me dérange moi voilà.
C'est-à-dire que c'est un peu les écolos qui dénaturent votre campagne, c'est ça ce que vous dites?
En deux mots, c'est un peu ça, oui. C'est un peu ça.
Alors justement, Perico Légas, voilà, on entend Fabio qui dit que finalement son vote RN, et c'est vrai que moi c'est la première fois que j'entends ça, c'est un vote contre les écolos. C'est représentatif de ce qui se passe dans nos campagnes, ça, Perico?
Alors, je comprends très bien ce que veut dire Fabio et les problèmes qu'il pose sont réels. Toutefois, la position politique du Rassemblement National sur les questions de ruralité, d'environnement, d'agriculture paysanne, ils sont pas clairs. Effectivement, les RN sont assez sensibles au discours de la FNSEA. Foutez la paix aux paysans, aux agriculteurs, laissez-leur gagner de l'argent. Il y a une concurrence internationale. Il faut comprendre qu'une partie de l'agriculture française doit rentrer sur le marché international. Attention, ce n'est pas ça qui préserve la ruralité et la France paysanne. Donc là, il faut qu'ils précisent exactement. En Europe, ils votent pour des lois plutôt anti-écologistes. Il y a une lecture de l'écologie qui est restrictive de la campagne, avec de l'idéologie. On dit l'écologie punitive, je trouve que c'est abusive. Mais souvent, les écolos et les verts sont là-dessus un petit peu idéologués, un petit peu doctrinaires. Et c'est vrai que Fabio, il défend la vraie campagne, les vraies valeurs de la nature et de l'agriculture. Et que c'est là où il faut faire bien la part des choses entre ce que propose le RN politiquement et les gens qui votent pour le RN pensant qu'il faut préserver cette certaine idée de la France.
Alors merci beaucoup Romain Poiseau et merci à Fabio d'avoir été avec nous dans Les Français en direct. Et c'est vrai que depuis le début de cette émission, on entend des auditeurs qui votent RN, mais personne ne vote pour la même raison. Ouais. Ne vote RN pour la même raison, et c'est ça qui est assez fou. Allez, dans un instant on aura le zapping, le meilleur des RMC. On va parler du dégagisme et de plusieurs personnalités qui sont sorties dès le premier tour, hein, Cahuzac, Abad ou encore Clément Beaune. On parlera également de Jean-Luc Mélenchon qui est apparu à l'antenne avec Rima Hassan qui portait un keffieh. Ça a beaucoup fait parler. Et puis enfin, bien sûr, Kevin Vauclin, victoire française hier sur le Tour de France. C'est la deuxième victoire d'affilée. Ah,
c'est l'alerte aussi. C'est l'alerte, Estelle, qui vient de retentir. Vous avez 5 minutes pour tenter de remporter vos places pour le quart de finale du vendredi 5 juillet à 21h. Ce soir, soit la France, ce sera soit la France, soit la Belgique qui sera opposée soit au Portugal, soit à la Slovénie. On vous envoie en Allemagne, à Hambourg, le vol, l'hôtel, la rencontre avec les équipes RMC. Vous avez 5 minutes pour envoyer Euro par SMS au 7-32-16. Euro par SMS au 7-32-16.
Allez, tout de suite, le zapping, le meilleur d'RMC. On se retrouve dans un instant dans Estelle Midi.
RMC, midi 14h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
Il est 13h43, vous êtes sur RMC, RMC Story, dans Estelle Midi, avec Rémi Barré, avec Perico Collega, Jérôme Lavrieux et Juliette Brien. C'est tout de suite, c'est le zapping, le meilleur d'RMC, c'est tout de suite.
RMC, Estelle Midi.
Le zapping RMC.
Et on commence avec un extrait des Grandes Gueules ce matin sur RMC. Le dégagisme est-il une bonne chose? Les résultats du premier tour des législatives ont montré une vraie tendance, celle de l'échec de certains grands noms de la politique, Cahuzac, Abad ou même Clément Beaune qui était encore ministre et député cette année. Et pour les GG, Joël Dagosséry et Charles Consigny, pas de quoi se réjouir, mais c'est en effet le signe d'un ras-le-bol des électeurs.
Je pense pas qu'on doive se réjouir de la débâcle des uns et des autres. Damien Abad, je pense que c'est quand même quelqu'un qui a une vie compliquée. Donc moi, j'ai plutôt une espèce de pensée pour lui.
On a quand même, quoi qu'on dise Antoine, avec ce truc d'adhésion, enfin, on a quand même une grosse part de dégagisme.
Ce dégagisme est-il une bonne chose, Juliette Briens?
Bah écoutez, moi, je respecte la parole du peuple. J'ai pas vraiment de pensée profonde pour Damien Abad, Jérôme Cahuzac et Clément Beaune. J'avoue que je suis à court de larmes. Voilà, le peuple a parlé. Et s'ils en sont là aujourd'hui, c'est qu'ils n'ont pas pris les bonnes décisions politiques, il me semble. Et voilà, je pense pas qu'il y ait d'autres analyses à en faire. Si vous voulez, le dégagisme.
Non, mais on voit aussi Fabien Roussel, voilà, qui a été dégagé au premier tour. Non, mais on est quand même sur des, voilà, mais on est quand même sur des personnalités politiques de premier plan. Fabien Roussel, il était, oui, je suis désolée, mais il était candidat à la présidentielle. Il jouissait plutôt d'une bonne réputation, tout le monde le trouvait hyper sympathique, etc.
Mais c'est pour ça que c'est vrai que chez Fabien Roussel, qui est intéressant, c'est ce côté un peu franchouillard, proche du peuple.
Mais
oui,
il se fait dégager, etc. Quoi.
Mais oui, parce que c'est l'alliance contre nature, voilà, avec LFI et avec Jean-Luc Mélenchon qui a tout bouffé.
Il a payé la confusion.
Oui, tout à fait.
C'est très triste.
Mais la politique, c'est un sport dangereux. Hein. Oui. Vous pouvez avoir l'impression d'avoir bien fait votre mandat et parfois vraiment de l'avoir bien fait, jour et nuit. Et puis vous vous dégagez, vous ne comprenez pas pourquoi. Mais c'est le jeu et à la fin, c'est l'électeur qui a raison. Hein. Sinon, il faut changer de système. C'est sans doute le pire des systèmes, comme disait Churchill, mais moi, je n'en connais pas de meilleur. Donc, l'électeur a parlé. Ceux qui sont battus trouvent ça très injuste. Ouais. Ils ont parfois raison de le penser, mais c'est la dure loi du sport. Et puis, peut-être que ceux qui viennent gagner et qui sont en train de marcher sur l'eau, parce qu'ils ont 21 ou 22 ans, ils n'ont jamais foutu les pieds dans la circo dans laquelle ils viennent d'être élus, ils y connaissent strictement rien, et pour eux la Constitution c'est un texte qu'ils n'ont jamais lu, ben, peut-être qu'ils ne vont pas marcher sur l'eau très longtemps, qu'eux aussi vont trouver un jour injuste d'être dégagés à nouveau. Sinon on n'aurait que des gens qui font 70 ans de mandat. Hein. Mais c'est pas le cas.
Avant, il y avait un peu péricou quand même, la prime à l'ancienneté, on va dire, la prime au sortant. Là, on a l'impression que c'est plus du tout ça, quoi. Et c'est, stop à tout ça, en fait. On veut des nouveaux, on veut des gens qu'on n'a jamais essayé, justement. Mais c'est vrai que pour certains, c'est assez violent.
C'est un signe de l'évolution de l'idée de liberté dans notre société. L'électeur s'émancipe non plus des consignes politiciennes ou des codes qu'il fallait respecter. Maintenant, il se comporte en citoyen libre et fait introduire des éléments de morale qui correspondent à ses idées ou pas à ses idées. Donc, s'ils estiment que quelqu'un s'est mal comporté, même s'il répond à un parti politique pour lequel il avait décidé de voter, eh bien, ils ont voté non. D'accord. Ils ont battu cet homme alors que l'homme, le candidat, représentait l'opinion politique. Voilà. C'est pas l'idéologie qui a été rebattue. Dans certains cas, lui, on veut pas celui-là. On verra au triangulaire des consignes qui seront pas respectées parce que les gens diront d'accord, il faut faire barrage, mais celui-là on n'en veut pas.
Mais c'est le dégagisme pour la personne qui remplace quelqu'un qui a été dégagé, c'est pas une condition de succès.
Non, mais là je parle sur les cas.
Regardez, Emmanuel Macron a été élu en 2017 par une forme de dégagisme. Oui. Les gens, on en avait marre de Hollande, on pouvait plus l'encaisser. Sarkozy, plus personne pouvait le blairer à droite. Il a perdu au premier tour de la primaire et on a pris quelqu'un de nouveau. Et quelqu'un de nouveau, il est plus nouveau dès qu'il a été élu. Il faut que Bardella et compagnie intègrent bien cela. Ils n'ont pas marché sur l'eau pendant trop longtemps. Ça va être compliqué.
Les GG ce matin sur RMC. On va revenir sur la polémique. Hier soir, côté insoumis après les résultats, Jean-Luc Mélenchon s'est exprimé sur scène avec à ses côtés Rima Hassan, nouvelle eurodéputée vêtue d'un keffieh palestinien. Et pour Olivier Truchot, cette tenue est incompréhensible et en décalage total avec les préoccupations de l'électorat français. Écoutez.
La gauche devrait répondre à Yvette. Et quand j'ai vu, excuse-moi, mais Jean-Luc Mélenchon hier, il réagit, il y a Rima Hassan qui est à côté, qui n'est pas candidate, qui est députée européenne, qui a un keffieh. J'ai bien compris qu'il s'agissait de draguer une partie d'électorat, et ça a fonctionné d'ailleurs aux européennes, ils ont fait 10%, mais de continuer à le faire, donc afficher Rima Hassan. Et alors Yvette, c'est parce qu'elle veut. Yvette, elle veut pas Rima Hassan avec un keffieh palestinien. Elle veut qu'on lui réponde sur l'électricité, sur sa retraite, sur la vie de ses enfants aussi, ce qu'ils vont devenir.
Perico, les gars, est-ce que ça vous a choqué hier soir cette image justement de Jean-Luc Mélenchon avec Rima Hassan?
Le keffieh, c'est le symbole de la résistance palestinienne d'un peuple qui a été opprimé par Israël. C'est aussi le symbole de ce qui s'est passé le 7 octobre. Donc c'est une grosse maladresse, j'allais dire.
Je crois pas que ce soit maladroit.
C'est tout sauf une maladresse.
C'est fait exprès, ils ont pas oublié le keffieh.
Non mais la conséquence, c'est une maladresse politique. Le message qu'il a voulu envoyer est extrêmement maladroit. Là, il a voulu un message, même dans son électorat, je sais des gens.
Il a voulu l'envoyer, ce message.
Il avait mis l'autre personne que Rima Hassan le mettre à côté de lui, s'il avait voulu. Là, c'est très clair, le message est en gros, je vous emmerde, je reste sur mes positions.
C'est exactement ça.
Voilà, je vous provoque et tout ce que j'ai dit depuis sur cette question-là. Qui n'est pas une question législative française, je le pense, je le maintiens. D'abord, j'arbore la personne qui incarne cette lecture. C'est en voyant ce signe que je me suis dit, en fait, il souhaite la majorité absolue du Rassemblement national pour pouvoir créer une situation révolutionnaire dans laquelle il pourrait peut-être appeler à une ferme de rébellion dont il serait le leader. Je pense qu'on en est là.
En fait, ce qui est intéressant, c'est que Rima Hassan, pendant toute la campagne, depuis les européennes et pendant toute la courte campagne des législatives, il l'avait mis au placard. On ne l'entendait plus, ni sur Twitter,
elle était nulle part,
pratiquement plus. Et effectivement, là, de la mettre derrière lui, comme ça, pour annoncer, pour faire son discours de premier tour, ça veut tout dire. Ça veut dire, surprise, on mène la danse, voilà, maintenant, ce qu'est le nouveau Front Populaire, c'est moi et Rima Hassan. Et depuis le début, on vous a bien berné et maintenant, vous n'avez plus le choix. Parce que le RN, il est là. Donc, si vous votez pour le nouveau Front Populaire, vous votez pour ça et c'est assumé.
Mais c'est vrai que Glucksmann, il devait être content hier.
À un moment, il va falloir que Glucksmann se clarifie.
Voilà.
Il peut pas avoir le beurre.
Très bien avec
l'argent du beurre. Mais Glucksmann, c'est le beurre, l'argent du beurre, la fermière et le tabouret qui est en dessous. Donc à un moment, il va falloir qu'il choisisse. Tu veux pas tout avoir.
Et on ça, a des c'est amis qu'on mérite. Hein.
Tout sauf quelque chose qui est anodin. Ça a été programmé, préparé à l'avance. Et là où on a berné les personnes qui étaient focalisées sur la Palestine, etc., on en parle dans les européennes, ils n'en parlent plus juste après. Ils n'en parlent plus juste après. Ils font une union, ils n'en parlent plus. Les candidats et les filles n'en parlent plus. Et là, on revient dans le game, et là où Péricot, je pense, a raison, le Mélenchon n'a jamais eu pour ambition de prendre le pouvoir par les élections. Mélenchon, il s'en fout d'avoir 200 députés ou d'en avoir 70. Non, Mélenchon veut le chaos après le chaos. Et pour arriver après un bordel sans nom. Et là, il envoie ça.
C'est pas lui qui va le mener, ce bordel. Non. Tout le monde veut le dégager.
Ça s'appelle la révolution.
Il a bien dit qu'il était le patron. Sauf qu'au lieu de passer pour un chef de parti, il passe pour un gourou de secte. Voilà. Il est en train de transformer la France insoumise en secte, alors que c'est un parti politique qui défend aussi des causes qui sont respectables.
Et Garrido et Corbière, ils peuvent vous en parler savamment.
Ils essayent peut-être de le dégager, mais ils n'y arrivent pas. Et hier, je suis désolée de revenir là-dessus, la place de la République, c'était extrêmement choquant. C'était du drapeau palestinien et du drapeau algérien. C'était des slogans comme « Tout le monde déteste la police »,« Qui crée la harassera, récolte l'intifada »,« Israël dégage ». C'était impressionnant.
C'était pas une énorme manif, c'est pas représentatif.
Il y avait du monde et c'est le corps militant de LFI qui, pour l'instant, n'a aucune envie de dégager Mélenchon. Et Mélenchon, aujourd'hui, représente le nouveau Front populaire, il faut le dire. C'est, en tout cas, le citoyen moyen, l'électeur moyen, il pense à Mélenchon quand il pense au nouveau Front populaire. Donc, c'est raté pour Glucksmann, effectivement, qui aurait bien voulu le ramener vers lui, mais c'est complètement raté, là.
Mais je pense qu'il y a une partie de la gauche qui ne devait pas être très, très contente de voir Jean-Luc Mélenchon hier avec Rima Hassan et avec un Kefié, parce que
ils ont
essayé de temporiser beaucoup. Tout d'un coup, ça remet ça sur le.
Non, mais à force de manger des couleuvres, ils vont avoir des problèmes de digestion. Il va falloir qu'ils travaillent quand même.
Si je ne sais pas. Allez, on va terminer ce zapping avec une touche plus légère, une très, très jolie touche, incroyable, mais vraie. Hier, Kevin Vauclin a remporté la deuxième étape du Tour de France entre Cesenatico et Bologne après la très belle victoire de Romain Bardet samedi. Eh bien, c'est la première fois depuis 1968 que deux tricolores triomphent sur les deux premières étapes de la Grande Boucle. On écoute tout de suite l'arrivée d'hier.
Kevin Vauclin qui se retourne, il peut se relever. Et oui, il peut faire signe aux tifosi. Allez-y, applaudissez-moi. Il y a de la joie dans les cœurs. La Normandie est en fête. Kevin Vauclin va s'imposer. Levez les bras en Italie. Quel bonheur, quelle joie. Les Français sont en forme, en très grande forme. La victoire de Vauclin qui serre les points, qui passe la ligne. Victoire française une nouvelle fois. Victoire de Vauclin.
23 ans, Kevin Vauclin. Et c'est vrai qu'on parlait plus du tout du Tour. On parlait que des législatives. On n'attendait pas les Français. Et là, bim, deux victoires exceptionnelles en deux jours. Moi, je suis une dingue du Tour de France. Et ça me remplit de joie.
On peut même y dire trois, parce qu'en plus, il y a eu le maillot jaune.
Exactement, de Romain Bardet. Première fois de sa carrière pour son dernier Tour de France.
Première étape. Et en plus, excusez du peu, en Italie.
Exactement.
Pays chauvin, s'il en est, ou quand c'est pas bon pour les Italiens, on interrompt les étapes parce qu'il y a trois flocons qui tombent. Hein. Ils savent le faire, les Italiens, dans l'organisation du Giro. On dévie le truc, les sportifs. Ouais, exactement. Deviens chemin. Pas sur le Tour de France.
Moi, il y a des étapes du Tour de France qui ont été tronquées.
Oui,
il y a des étapes.
Parce que les conditions étaient réelles, pas parce que c'était un Italien qui allait perdre. Hein. Donc moi, je suis un fan absolu de cyclisme. Et une petite pensée pour mon père qui regarde ça depuis des dizaines d'années et qui connaît ça par cœur en ce moment. Et j'ai trouvé ça génial. C'est le retour des cyclistes français. Alors, je suis pas sûr que ça dure pendant les trois semaines du Tour, mais c'est génial. En plus, en Italie.
On retrouve justement Christophe Cessieux dans un instant sur RMC. Moi, j'en profite pour vous dire merci, parce que c'était ma dernière de la saison. Je vous retrouve dimanche soir pour la soirée électorale sur RMC avec Olivier Truchot, et puis après pour les JO à partir du 26 juillet. D'ici là, je vous laisse entre les mains expertes de Rémi Barré. Puis j'en profite pour vous remercier pour votre fidélité toute l'année. Je remercie évidemment toute l'équipe d'Estelle, tous les chroniqueurs. Voilà, merci à vous, toutes les équipes qui travaillent chaque jour sur l'émission, les rédacteurs en chef, Bérangère Bouquillon, Paul Dassène, Mélanie Delaunay, la chef d'édition Anne-Laure de Revier, le Réal, Donatien Guittard, le chef du Standard, Thomas Camacho, la direction, bien sûr, Pierre, notre stagiaire, qui a été absolument formidable, la régie, Pablo, Max, Flo, Kylian, Fabio, Ilan ou encore Nassim et tous les autres. Merci, merci beaucoup. C'est un bonheur de travailler tous les jours à vos côtés. Je vous laisse donc, à partir de demain, entre les mains de Rémi Barré. Et tout de suite, c'est l'intégral tour avec Christophe Cessieux, la troisième étape du Tour de France, Plaisance-Turin. C'est la plus longue étape du Tour de 130 km. Bonjour Christophe.
Bonjour Estelle, effectivement. 230 km et on n'est pas parti pour une journée trépidante aujourd'hui, faut bien dire.
Faut se reposer.
Étape de transition, figure-toi qu'il n'y a aucune échappée depuis le départ tout à l'heure et que ça risque d'aller comme ça jusqu'à Turin. On n'est pas arrivé, je pense qu'on va louper le match ce soir, hein. On va pas pouvoir le voir s'il continue à ce rythme de sénateur. On espère une nouvelle victoire française, mais enfin aujourd'hui c'est plutôt pour les sprinteurs, Estelle. Hein.
Ouais. Moi j'ai mis une petite pièce sur Philippe Sen.
Ah bah oui, tu as raison. Ouais. Mais une grosse pièce d'ailleurs, parce que sa cote doit pas être énorme. Norme. hein, non plus. Hein.
Non, c'est pas énorme. Après, c'est une étape longue, effectivement. Aujourd'hui, on peut se dire que, sauf que les organismes ont été énormément éprouvés par les deux premières étapes qui ont été absolument fantastiques, deux victoires des Français. Mais on peut penser aussi que les coureurs ont envie de mettre un petit peu la main sur le frein aujourd'hui.
Ouais, d'autant que demain, c'est le Galibier quand même, hein, puisqu'on va passer, les Alpes, déjà. On va revenir en France. Donc demain, il va falloir s'infuser le Galibier. Ce sera la première étape de haute montagne de ce Tour de France. Donc effectivement, aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle une étape de transition. Il faut bien de temps en temps reposer les coureurs et c'est reposer ça. Les journalistes. Mais enfin, nous, on est quand même à l'antenne pendant 4 heures. Hein. Donc il va falloir qu'on trouve des choses à dire. Je ne sais pas ce qu'on va dire. Bon, on va faire
ça, c'est marrant,
déjà.
Mais c'est ça, je m'inquiète pas pour vous. En tout cas, Christophe, vous êtes un tout petit peu plus vieux que moi. Moi, j'ai pas souvenir d'avoir assisté à un début de tour aussi trépidant que celui-là, quand même.
Pour les Français, Estelle. Non, pour les Français, c'est vrai. 1968 pour les deux premières victoires. Il y avait eu aussi 1979, si on compte pas le il y avait eu un prologue, mais ensuite les Français avaient gagné les deux premières étapes. C'était l'équipe de Cyril Guimard qui est à nos côtés, évidemment.
Bien sûr.
Ça lui rappelle ses jeunes années, tout ça. Mais c'est vrai qu'on s'est régalé. Maintenant, est-ce qu'ils vont faire aussi bien? Certains pensent qu'ils peuvent aller décrocher jusqu'à 3-4 victoires. On verra. C'est encore long. Il reste 3 semaines encore du Tour de France.
Merci beaucoup Christophe Cessieux, on vous retrouve tout de suite dans l'intégral tour pour suivre la troisième étape en direct du Tour de France entre Plaisance et Turin, 230 km. Et demain, ce sera Rémi Barré aux commandes d'Estelle Midi. Oui, Rémi.
Bonnes vacances Estelle.
Merci Rémi. Oh, je reviens vite, je reviens dès dimanche.
Oui, c'est vrai.
Écoutez, profite. Ce sera court. Merci. Merci beaucoup, à demain dans Estelle Midi.
RMC jusqu'à 18h.
Intégral tour.